Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Ésaïe, Ésaïe chapitre 6. Et ce que j'aimerais faire dimanche, donc aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est de profiter de ces derniers dimanches d'été pour nous resituer sur les bases. J'aime bien revenir aux bases fondamentales de l'Évangile, les bases fondamentales de qui nous sommes et ce que nous faisons ici et ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc ça, c'est vraiment mon objectif aujourd'hui. Et donc, pour le faire, j'ai pensé à Ésaïe 6, un texte que vous connaissez peut-être, très beau, un message que j'intitule « La vision céleste d'Ésaïe ». La vision céleste d'Ésaïe, sous-titre « Comment avoir un impact sur le monde et pour nous, ici dans cette ville où Dieu nous a placés ?» Lisons Ésaïe 6 à partir du verset 1 et jusqu'au verset 8. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ça, c'est un beau texte, comme ils le sont tous, bien sûr, dans la parole de Dieu. Alors voilà, j'ai pas une grande introduction, simplement de nous refocaliser sur l'essentiel. Pourquoi sommes-nous ici? Et surtout, puisque c'est la rentrée dans le sens que, dans une, deux semaines, l'école commence, les vacances sont terminées, on va reprendre l'année scolaire. Je viens avec quelle perspective? Je viens au culte. Je suis chrétien. Ok, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon appel? Quel impact puis-je avoir ou pouvons-nous avoir en tant qu'Église dans notre monde? Eh bien, je pense que nous avons une responsabilité, et cette responsabilité, on la voit dans ce texte. Je pense que nous avons la même responsabilité, le même rôle, le même devoir qu'avait Ésaïe. Alors, pour le comprendre, je vais reculer un petit peu, et en forme d'introduction, on va simplement nous plonger dans le contexte et premièrement voir trois portraits, parce que le contexte, on le situe avec trois portraits. Il faut les comprendre pour comprendre l'arrière-plan et vous voyez, on va voir le texte ensuite surgir comme un diamant face à ces trois portraits. Alors premièrement, regardez le verset 1. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. » Alors la première question, c'est qui « je » ? Eh bien, il faut aller à 1:1, chapitre 1, verset 1, pour réaliser que c'est le prophète Ésaïe qui parle. Et on apprend de lui, prophète Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un prophète qui s'appelle Ésaïe. On apprend qu'il est le fils d'un certain Amoz, mais qu'il était un prophète envoyé par Dieu à Juda et spécifiquement à la ville de Jérusalem et dans les environs. Il exerça son ministère de prophète pendant le règne de 4 rois de Juda successifs, le roi Ozias, aussi nommé Azaria, Jotam, Akaz et Ézéchias. Et nous savons historiquement qu'il a prophétisé de 739 à 686 avant Jésus-Christ. Donc, il était prophète pendant 52 ans. 52 ans, il était prophète. Et nous voyons dans chapitre 6 d'Ésaïe qu'un jour, Dieu l'appelle d'une manière concrète. Il l'appelle. Donc ça, c'est le premier portrait, Ésaïe. Mais regardez encore chapitre 6, verset 1. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur. » Ah, c'est intéressant. Ésaïe a sa vision, mais il met sa vision dans un contexte historique très important. Il dit dans la première ligne, « Dans l'année de la mort du roi Ozias. » Deuxième portrait. Est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce qu'il mentionne le roi Ozias? C'est hyper important. Pour comprendre, allez avec moi à 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26. C'est capital de comprendre. Et là, vous allez comprendre maintenant pourquoi Ésaïe réagit comme il réagit dans cette vision qu'il va avoir dans Ésaïe 6. On est dans 2 Chroniques 26. Voyons ce qu'on apprend d'Ozias, qui est cet homme. Très intéressant. 2 Chroniques 26, 1. Au verset 1, « Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatsia. » Donc, on apprend qu'il était roi, et il a été établi roi à l'âge de 16 ans. En fait, il est le dixième roi de Juda. Et qu'il a régné, selon le verset 3, Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, il régna 52 ans à Jérusalem. Donc, il a eu un règne de 52 ans. Et verset 4, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Donc, on apprend qu'il a eu un règne honorable, du moins maintenant, au début, d'accord, droit comme son père. Donc, c'était un bon roi qui régnait de manière juste, équitable. Dieu l'aide, verset 7, Dieu l'aida contre les Philistins. Donc, il y avait, malheureusement, mais c'est comme ça, des guerres, et donc... Il l'aida dans ses guerres. Verset 8, on apprend, les Ammonites faisaient des présents à Ozias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières d'Égypte car il devint très puissant. Donc, il devient puissant, il devient connu jusqu'en Égypte, on connaît sa renommée. Mais tout change au verset 16. Mais, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel de parfums. Et ça, c'était son péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été emporté par son orgueil en tant que roi, avec son succès. Et il s'est permis de rentrer dans le temple pour brûler de l'encens. Alors, est-ce que c'est un problème? Alors, c'est un problème quand cet acte est réservé spécifiquement aux Lévites, aux sacrificateurs. Nombre 3 et nombre 18. C'est un acte qui était réservé pour ceux que Dieu avait choisis. Et donc, ce n'était pas à un roi de faire cela. C'était clair. Alors, ce qui est incroyable, c'est le courage des sacrificateurs. Parce que maintenant, il faut le confronter. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le devoir de confronter quelqu'un, ce n'est pas facile. De confronter un roi, c'est encore moins facile. Et ils avaient tellement peur, verset 17, les sacrificateurs d'Azarias entrent après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Il s'est dit, seul, j'y arriverai jamais, quoi. Mais peut-être à 81, on y arrivera pour le confronter. 81 sacrificateurs rentrent, hommes courageux, verset 18 nous dit, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » Waouh ! Ben, chapeau. Chapeau. C'est ce qu'il fallait. Ils ont été confrontés le roi. Alors, est-ce que le roi a bien réagi? Verset 19. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Il n'a pas du tout aimé être confronté par ces 81, qui sont les sacrificateurs et les prêtres qui sont venus le confronter. Donc son orgueil était maintenant manifestement clair et net. Il s'emporte dans sa colère. Pendant qu'il est en train de sacrifier, donc là il est chopé dans son péché. Et regardez verset 19. « Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. » Sur le champ, tout d'un coup, la lèpre commence à se répandre sur son front et sur son corps, face à ses sacrificateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un jugement immédiat. Le souverain sacrificateur Azarias, verset 20, « Et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front, et ils le mirent précipitamment dehors, donc il lui dit « Sors, sors, sors !» Et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. C'était clair, ça venait de l'Éternel. Et regardez verset 21. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Alors j'aimerais vous montrer un détail super intéressant au verset 22. Regardez. Le reste des actions d'Ozias, les premières et les dernières, ont été écrits par qui ? Ésaïe. Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète. Alors ce qu'on apprend, Ésaïe était prophète à l'époque, à la même époque. Et on ne sait pas exactement où il est dans cet événement-là, ce jour-là, mais il en a eu conscience, peut-être qu'il a vu le roi, il a certainement vu le roi lépreux, parce qu'il était lépreux pour le reste de sa vie. Donc c'était clair, et à un moment donné, Ésaïe a été appelé à écrire ce qui s'est passé. Et il l'a fait. Une biographie qui ne figure pas dans le livre d'Ésaïe. Bref, la question est celle-ci. Imaginez avoir été le prophète Ésaïe, et vous êtes prophète appelé de Dieu, et votre tâche, prophète appelé de servir auprès du roi Israël, et c'est à vous à écrire la faute commise par le roi et son jugement de lèpre par Dieu. Quel effet est-ce que cela aurait eu sur vous en tant que prophète? Vous voyez le jugement de Dieu sur le roi, vous êtes le prophète de Dieu. Moi, je pense que ce jour-là, comme pour tous les autres sacrificateurs, ils ont dû avoir peur, une immense crainte, une frayeur de se dire « Waouh ! Est-ce que je vais, moi, offrir ce que je dois faire et faire le service que je dois faire dans le temple n'importe comment ?» Ou est-ce que je vais me préparer, être vraiment certain qu'avant que je mette le pied dans ce temple, que je suis en ordre, sinon Dieu pourrait me frapper de lèpre aussi. C'est un avertissement envers tous ces sacrificateurs. Retournons à Ésaïe 6. On est en train de comprendre le verset 1 et le contexte ici. C'est vraiment important. L'année de la mort du roi Ozias. Ah là, ça change tout. Il est mort après avoir eu la lèpre toute sa vie à cause de son péché dans le temple. Cette phrase veut tout dire. L'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient quoi ? Le temple. Waouh ! Le temple où Ozias a été jugé. Donc, on a le portrait du prophète Ésaïe. 2. Le portrait du roi Ozias. 3. Le portrait du peuple. Donc là, Ésaïe maintenant est face à un roi qui a péché, qui s'est fait juger par Dieu. Nous reculons un petit peu dans Ésaïe et voyons Troisièmement, le portrait du peuple. Il a été appelé, n'est-ce pas, en tant que prophète envers Juda et Jérusalem en particulier. Alors, les premiers 5 chapitres d'Ésaïe sont vraiment la condamnation et une liste des péchés de Juda et de Jérusalem, d'accord? Et là, par exemple, on voit dans verset 4 du chapitre 1, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le sein de l'Éternel, ils se sont retirés en arrière. » Donc, voilà. Voilà le problème. Verset 10, regardez. « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de l'immultitude de vos sacrifices, dit l'Éternel ? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse, des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs, etc. » Et il commence à leur dire « Mais écoutez, vous faites tout faux. Votre cœur n'est pas droit. » Verset 15, « Quand vous étendez les mains pour m'adorer, je détourne de vous mes yeux, car vous multipliez les prières et je n'écoute pas parce que vos mains sont pleines de sang. » Verset 18, « Plaidons, venez plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Il leur dit, « Écoutez, vous êtes dans le péché, vous avez besoin d'être pardonnés. Venez, venez, venez. » Mais ils restent dans leur système. Elles ne viennent pas comme ils devraient venir. Et ça continue jusqu'au chapitre 5, verset 24. Et là, on a le bilan et le verdict. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, 5, 24, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint Éternel. C'est pourquoi, voici le bilan, la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple et il étend sa main sur lui et le frappe. C'est pas très joyeux tout ça. Alors ça, c'est le contexte. C'est le contexte. Ésaïe le prophète, appelé, et il a cette vision le jour, enfin dans l'année où Ozias, qui est frappé de lèpre pour avoir désobéi au Seigneur dans le temple, et là, il y a le peuple, en plus, qui est dans son péché. Donc Ésaïe voit que du péché autour de lui. Que du péché autour de lui. Et c'est dans cet environnement noir que Ésaïe 6, 1 apparaît. Et c'est là où j'ai envie de dire, voilà, écoutez, vous savez, Genève, c'est intéressant, et le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est très intéressant. Moi, je suis allé aux fêtes de Genève, peut-être vous aussi, c'est super. Feu d'artifice géant, quoi. Et tout a l'air beau, tout a l'air sympa. C'est l'économie la plus forte du monde aujourd'hui, la meilleure du monde. On a l'impression qu'on est bien ici, quand même. Mais on n'est pas différent que Juda. Le cœur des hommes sont rebelles à Dieu globalement. Le jugement de Dieu, il viendra un jour. Il y a une grâce incroyable de Dieu sur ce pays. Mais l'homme est pécheur et le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort viendra un jour, la mort éternelle viendra, l'enfer est une réalité. Le jugement viendra un jour. Ça, c'est sûr. Alors, quel est notre rôle par rapport à notre contexte? Il n'est pas différent que celui d'Ésaïe. Il a plusieurs milliers d'années de différence, on est d'accord. Mais globalement, le cœur de l'homme n'est pas différent. Quel est notre rôle? Quelle est notre responsabilité? Moi, je crois que nous devons avoir le même rôle qu'Ésaïe. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot d'utiliser rôle ou responsabilité. J'ai marqué ici comment avoir un impact sur notre monde. Il faut, comme Ésaïe, avoir ces quatre choses. Numéro un, regardez. C'est vraiment génial. Premièrement, il faut avoir une haute vision de Dieu. Une haute vision de Dieu. Verset 1. L'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes dont ils se couvraient la face. 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. » En fait, il voit ici en regardant le Seigneur dans ce premier point, une haute vision de Dieu, il voit quatre choses. C'est des sous-points, d'accord ? Il voit en premier le Seigneur lui-même. Il voit le Seigneur, nous dit le verset 1, assis sur son trône, Adonai, le titre du seul vrai Dieu, avec une vue de majesté, d'autorité, celui qui est chef. Et là, il est assis sur son trône, le trône céleste. Vous dites, mais t'as voir, John, est-ce qu'il y a un trône là-haut ? Vraiment un trône ? Écoutez, moi je vous lis Apocalypse 19:5, et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petit et grand. Écoutez, pour moi, comme je comprends de manière littérale ces choses, il y a Dieu, il y a ciel et il y a un trône, et Dieu est sur ce trône. Nous savons qu'il y aura un grand trône blanc où le jugement dernier aura lieu aussi. Nous dit Apocalypse 20. Et nous savons qu'Apocalypse 22, 1 nous dit qu'il y a même une rivière qui sort du trône de Dieu. Alors là, il y a un trône et il voit ce trône et il voit Dieu assis sur ce trône. Et il est dit qu'il le voit très élevé. Il sait très bien ce qu'il est en train de voir dans cette vision, n'est pas quelque chose de terrestre, mais quelque chose de céleste, une chose élevée, quelque chose d'autre. Alors bon, je vais faire un lien, mais il est vraiment mauvais, quoi. Mais je ne sais pas si vous avez vu les feux d'artifice des fêtes de Genève. Nous, on était là, juste là au jet d'eau. Puis au final, je ne sais pas, j'étais à côté de James d'un côté, puis il y avait José de l'autre côté. Et puis on regardait, puis ça continuait, paf, paf, il y a le jet d'eau qui s'est allumé. Et c'est quoi le terme que tu lisais, José ? C'était exilant, c'était ça ? Hilarant. Et c'est marrant parce qu'en regardant ces feux d'artifice qui sautaient, James, il a commencé à rire. Et moi, j'ai commencé à rire. Et on s'est dit, mais pourquoi qu'on rit ? Parce que c'était tellement fort, c'était tellement autre, c'était tellement hilarant, j'ai trouvé le mot excellent, il y avait quelque chose d'autre, quoi. Alors ça, c'est humain, c'est un petit truc qui s'appelle un feu d'artifice. Imaginez être Ésaïe, et là, vous voyez Dieu sur son trône très élevé. Et là, Ésaïe, mais il a aplati, quoi. Il voit les pans de sa robe, celle du Seigneur, qui remplissent le temple. Je ne sais pas quoi vous dire, sauf pour vous dire qu'il voit les robes, le bord de sa grande robe glorieuse du Seigneur qui remplit le temple. Voilà ce qu'il a vu. Voilà. Il voit ensuite, regardez, des séraphins, verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Alors le mot signifie littéralement ceux qui sont consumés par le feu ou de feu, brillants. Ce sont des êtres célestes, des anges. Extraordinaire. Alors, la Bible parle beaucoup d'anges. Ils sont mentionnés 273 dans 34 livres de la Bible. Ils ont été créés par Dieu. Ils étaient présents à la création du monde. C'est eux, des anges, qui ont annoncé la naissance de Jésus dans Luc 2. Les anges, Ésaïe 6, ici nous disent qu'ils adorent Dieu. Leur but, Apocalypse 4, 8, est de glorifier Dieu. Ils sont innombrables. La Bible nous parle du fait qu'ils sont des myriades et des myriades. Ça fait combien ? Ça fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'anges. Des myriades. Et ils sont là pour nous servir, nous dit Hébreux et Matthieu aussi. Il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a des anges, ils sont différents. C'est étonnant. Je n'ai pas le temps de faire toute une étude sur les anges, un jour on le fera. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Eh bien, il est dit que des séraphins, donc des êtres brillants, se tenaient au-dessus de lui. Donc Dieu est là, sur son trône, assis, et là au-dessus, tchac, il y a ses séraphins. Alors on apprend qu'ils ont des ailes. Avec deux, ils ont six ailes. Avec deux des ailes, ils se couvrent la face. On ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas regarder directement la gloire de Dieu ? C'est possible. Deux, avec deux ailes, ils se couvraient les pieds. On a l'impression que les pieds parlent du service de Dieu d'une manière ou une autre. Est-ce que c'était simplement pour montrer que le monde était contaminé ? On ne sait pas. Je ne sais pas. et deux autres ailes avec lesquelles ils volaient. Ils étaient dispatchés au service de Dieu. Le psaume 104:4 nous dit qu'ils sont au service de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, regardez, les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, verset 3, et ils criaient l'un à l'autre. Donc ils étaient plusieurs et ils criaient. Alors je ne vais pas crier pour vous donner le... Ah! Non, d'accord, c'est pas ça. Non, mais ils se criaient, mais criaient avec une voix d'adoration. Pourquoi? Parce qu'on le sait. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, dans ce cri, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Alors ça, j'ai déjà dit, mais c'est vrai. Pourquoi Saint, Saint, Saint? Déjà le mot veut littéralement veut dire mis à part, quelque chose qui est unique, autre, pur. Et puisque c'est mis à part de notre contexte, c'est dans ce sens-là que le mot saint veut dire sacré ou élevé ou à part ou sans tache, sans ride, limpide, propre, parfait. C'est ça l'idée de la sainteté. Alors c'est intéressant que les anges ne disent pas puissant, puissant, puissant. Bien que Dieu est puissant. Il est tout puissant. Ils ne disent pas non plus « amour, amour, amour ». Il aurait pu le dire ça. Dieu est amour. Ils auraient pu dire « souverain, souverain, souverain ». Oui, ils auraient pu. Dieu est souverain. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent quoi ici? Ils disent « saint, saint, saint ». Dieu est saint. Apocalypse 4:8, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Écoutez, là-haut, il y a... Ça crie beaucoup et ça crie la sainteté de Dieu. Pourquoi trois fois? On ne sait pas exactement. L'idée de pleine, totale, peut-être l'idée de la Trinité, ce n'est pas explicite, ça pourrait être une référence à la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce n'est pas explicitement mentionné ici. Mais c'est sûr que là, on voit la suprématie totale, la sainteté suprême de Dieu. L'Éternel, Jéhovah, le Dieu d'Israël, il est saint, il est encore saint, il est encore saint. Et quel contraste, mes amis, c'est ça qu'il faut rappeler, le contexte. Le contraste entre cette vision de Dieu saint qui est en train d'être loué et adoré par les séraphins et le roi Ozias, mort de lèpre. À cause de son péché et le peuple de Juda et le peuple de Jérusalem, qui sont rebelles à Dieu, et là, la sainteté de Dieu. Et Ésaïe regarde ce contraste et il se dit, mais c'est incroyable. Non, mais la différence. Le peuple est tellement éloigné de cette sainteté de Dieu. Et ils disent ensuite, toute la terre est pleine de sa gloire. Vous dites, mais est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Je veux dire, hier, on était en train de manger, on a le privilège d'avoir une terrasse, et on a une table en plastique, blanche. D'accord? On était là, on mangeait. Et j'ai vu un point noir sur cette table. Un tout petit point noir, mais tenez-vous bien, qui bougeait. Et j'ai dit ça à ma famille, j'ai dit, mais c'est quand même dingue. Ce petit point noir, je ne sais même pas ce que c'est une bestiole. Mais un tout petit point noir, quoi. Et je me suis dit, attends, ce point noir a un cœur, des nerfs, du sang, des yeux, des poumons. Non mais c'est quand même incroyable. Et à côté, j'imaginais un éléphant qui débarque chez moi. Un éléphant, ben, il a aussi des yeux, une trompe, ça se dit, trompe. Ouais. Il a un cœur, mais grand, des jambes grandes, des poumons grands. Tout est grand chez l'éléphant, tout est minuscule sur ce point noir qui bougeait. Je me suis dit, mais ça c'est vraiment la gloire de Dieu dans la création. Et c'est exactement ce que le psaume 19 nous dit par rapport à Dieu. Il nous dit, si je trouve, d'accord, 19 dit ceci. Il dit, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Si on regarde aux étoiles, si on regarde au ciel, si on regarde à cette création, si on regarde à cette petite bestiole, on voit le doigt et la main de Dieu. Et dans ce sens-là, oui, mes amis, oui. Toute la terre est pleine de la gloire de Dieu. Et on ne parle même pas de la gloire du pardon que nous pouvons recevoir de son Fils Jésus-Christ. Tu regardes une bestiole et te réjouir de t'avoir quand tu vois son Fils qui nous a donné gratuitement pour nous laver de notre péché. La gloire de Dieu, elle est manifeste, des agents son Fils. Bon, on retourne à Ésaïe 6, là on voit encore qu'il voit non seulement ses séraphins, mais ensuite il voit un tremblement de terre. Verset 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, la maison se remplit de fumée. C'est intéressant, n'est-ce pas? Soudainement, les portes du temple, c'est dans cette vision, tout commence à trembler. Alors moi, je pense souvent au match de hockey, parce que j'y vais assez souvent. Et quand il y a un but, hein, pour une équipe vraiment, comme le Genève Servette, bonne équipe, d'accord, contre une équipe meilleure, peut-être, statistiquement, mais quand on marque et on gagne, écoutez, alors là, les cris sont tels que toute la patinoire des Vernets tremble. Et voilà l'idée ici. Le temple, il tremble. Mais il tremble à cause de quoi? Pas à cause des cris des supporters du Genève Servette Hockey Club, non. Parce que les anges crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». C'est autre chose. Et j'aimerais bien un jour voir 6000 personnes ou 7000 personnes au Vernet dire ensemble « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Ça, ce sera le jour, mes amis. J'attends ce jour. J'attends ce jour. Je risque d'attendre longtemps, je sais, d'accord? Le mont Sinaï a tremblé lorsque Dieu a donné sa parole. Il y a eu un tremblement de terre lorsque Christ est mort. Il y a eu un tremblement de terre lorsque Christ est ressuscité. Les événements importants, souvent dans la Bible, sont accompagnés d'un tremblement de terre pour montrer que c'est Dieu qui est en train de communiquer quelque chose ici. Et là, Ésaïe sait que Dieu parle. Et là, verset 4, ensuite il voit la maison se remplir de fumée. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. La maison se remplit de fumée. Bref, Ésaïe sait que là, il est quelque part d'autre. Ça, c'est le premier point, mes amis. Est-ce que c'est notre vision de Dieu? Est-ce que nous avons une haute vision de Dieu? Une vision céleste, sainte de Dieu? Je pense que c'est une question fondamentale. Et surtout parce que nous passons tellement d'heures dans ce monde. Dans ce monde où la norme n'est pas la sainteté de Dieu. Et si on est influencé par le monde, on ne devrait pas être surpris. Parce que pour avoir la vision sainte et haute de Dieu, mes amis, ça va, c'est vrai, quelque part, demander un effort de notre part. De nous rappeler. Alors bien sûr, on aimerait tous recevoir une vision comme Ésaïe. Je suis d'accord. Moi aussi, j'aimerais. Mais entre-temps, Dieu nous a révélé toute sa volonté dans la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Cette vision-là, parce qu'elle est écrite dans la parole de Dieu. Si tu veux une haute et sainte opinion de Dieu, si tu veux une grande et haute vision de Dieu, il faut être dans la parole. Deux. Pour avoir un effet, un impact dans notre monde, il faut non seulement avoir cette haute et grande vision de Dieu. Deuxièmement, il faut avoir ce que j'appelle une basse vision de l'homme. Un mec dans la voiture m'a dit, mais peut-être tu devrais dire une vraie vision de l'homme, pas une basse vision de l'homme, parce que l'homme a été créé dans l'image de Dieu. Donc c'est vrai que Dieu aime l'homme, il l'a créé digne, mais l'homme est pécheur, et dans ce sens-là, c'est une basse vision de Dieu. Nous devrions avoir une basse vision de l'homme. Regardez ce qui se passe, c'est intéressant, là il y a Isaïe le prophète. Il vient d'avoir cette vision grandiose, il a Ozias dans sa tête, il a le peuple de Juda et de Jérusalem dans sa tête comme un exemple de péché. Il a cette haute et grande vision de la sainteté de Dieu. Et regardez sa réaction, c'est incroyable. Verset 5, « Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Waouh! Alors Ésaïe, là, attendez, c'est un prophète! On dirait, mais il est top niveau, ce gars-là! Sa première réaction, il s'effondre. Et il dit, malheur à moi! Devant cette glorieuse sainteté de Dieu. Écoutez, mes amis, lorsqu'on est face à la perfection de Dieu, tout ce qu'on peut voir, c'est notre péché. Qu'on est une créature misérable, créature pécheresse, rebelle à Dieu, cœur noir, tortueux. Que nos bonnes œuvres apportent à rien. Gédéon, face à l'ange de l'Éternel, dans Juges 6, 22, a dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel !» Juges 13, 22, Manoah a dit à sa femme « Nous allons certainement mourir car nous avons vu Dieu. » Luc 5, 8, Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Mes amis, lorsqu'on est face à la sainteté de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous écrouler dans l'humilité et dire, Seigneur, malheur à moi. Ça, c'est la juste attitude à avoir. Une attitude d'humilité, de brisement. Quand Jean a eu sa vision dans Apocalypse 1, 17, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et là, il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte ». C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il analyse comme étant le vrai problème dans sa vie ici, Ésaïe ? Regardez verset 5. Le vrai problème. « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Ses lèvres. Ses lèvres. Il confesse sa langue. Le problème de ses lèvres. Il vient d'entendre la louange de Dieu sortir de la bouche pure des séraphins. Il ne se sent pas digne d'associer sa vie ou son chant à ses chants. Ses lèvres sont impures, comme celles du peuple dans lequel, au milieu duquel il habite. Est-ce que c'est ton attitude ? Est-ce que c'est la mienne ? Moi, je pense que Dieu va t'utiliser, m'utiliser, nous utiliser lorsque nous avons cette attitude. Seigneur, je n'ai rien à t'apporter. Moi, je suis impur. Je n'ai rien à te donner. Tout vient de toi. Tout est grâce de ta part. Je ne peux pas me comparer à toi et ta sainteté. C'est impossible. Je ne vais même pas essayer. Seigneur, je te demande pardon. Je suis un homme impur. Malheur à moi, tu peux me juger, tu peux prendre ma vie, tu peux faire ce que tu veux, tu as ton droit. Tu es juste, tu es bon, tu es amour, tu es saint. Tu me dois rien. Seigneur, je suis à ton service. Ça, c'est la juste attitude. Il faut avoir une haute vision de Dieu, une basse ou une juste vision de l'homme pécheur. Trois, là c'est la bonne nouvelle. Il faut avoir une éblouissante vision du Rédempteur. Une éblouissante vision du Rédempteur. Regardez le verset 6. Mais, voilà, Ésaïe vient de s'écrouler. Il se voit complètement indigne de quoi que ce soit. Là, au verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. » Alors, le temple à Jérusalem avait ce qu'on appelle l'autel d'airain, aussi appelé l'autel des holocaustes. Quand on rentrait, tac, il y avait l'autel, avant la tente. Il était dressé dans la cour extérieure. C'est là qu'on offrait les sacrifices. Les gens amenaient leurs agneaux, etc. Et on prenait ces bêtes, on les montait sur cet autel. Il y avait des cornes, on les attachait. Et là, on les tuait, on les brûlait. Et donc, il y avait des charbons ardents pour brûler toute cette chair. Et donc, ces anges viennent, prennent une de ces pierres ardentes. Mais pourquoi ? C'est bizarre. Il faut comprendre pourquoi il y a des sacrifices. Voyez-vous, la Bible, elle dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous pécheurs. Ésaïe le montre ici. Alors, comment est-ce que je peux avoir une relation avec un Dieu trois fois saint ? La question est intéressante. Si moi, je suis pécheur, et lui, il est saint, 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 et en plus, Habacuc 2, je n'ai pas lu, il ne peut pas permettre le péché dans sa présence. Il ne peut même pas regarder au péché. Comment est-ce que moi, je vais pouvoir passer l'éternité, en tant que pécheur, face à un Dieu trois fois saint ? Certains répondent, ah, il faut faire des bonnes œuvres. Ok, bonne chance. Venez écouter les messages sur Romains si vous croyez que vous pouvez vous sauver par les bonnes œuvres. C'est impossible. On est né dans l'iniquité. Non. Il n'y a qu'une manière de pouvoir passer l'éternité dans la présence de Dieu trois fois saint, c'est que lui me rende saint aussi. Lui doit me déclarer saint. Lui, par un miracle, doit ôter mon péché. Pas m'améliorer, ôter mon péché. Comment faire ? Eh bien, tout le système des sacrifices dans l'Ancien Testament était une image pour montrer que la seule manière, c'est qu'il doit y avoir une mort. Voyez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. Si je suis pécheur, Dieu dit, ton jugement pour ton péché, c'est que tu dois mourir. Mais je t'aime. Tu vois ces agneaux ? Tu peux prendre un agneau dans l'Ancien Testament, tu l'amènes, tu confesses ton péché dessus, et symboliquement, ton péché ira sur l'agneau. Tu dis, mais c'est pas juste ? Non, c'est une image. Ensuite, on va tuer l'agneau et tu vas voir le sang couler. Tu vas dire, mais c'est horrible ! Oui, ça aurait dû être toi. Mais l'agneau prend ta place. Tu dis, mais c'est incroyable, pourquoi est-ce que Dieu ferait ça ? Parce qu'il t'aime. Mais c'est injuste. Oui, c'est injuste. Mais il t'aime. C'est le plan de Dieu. L'agneau peut prendre ta place. Mais, donc, un agneau suffit ? Non. Non, parce que le sang de l'agneau n'est pas le sang d'un homme. Donc, il faut répéter, répéter, répéter. Mais un jour, Dieu a dit, je vais envoyer l'agneau parfait, mon propre fils. Et Jean 1, 29, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous ces sacrifices de l'Ancien Testament pointaient à l'agneau parfait, le Fils même de Dieu qui viendrait. Dieu fait homme sans péché, qui lui prendrait notre péché sur lui, qui lui mourrait à notre place, afin de nous permettre d'être pardonnés pour toujours de notre péché. Alors, Ésaïe est effondré face à son péché, face à la sainteté de Dieu. Il dit, Seigneur, c'est inutile. Je suis indigne. Dieu dit, oui, tu as raison. Mais j'ai une bonne nouvelle. Et là, le séraphin va prendre une pierre ardente, symbole de ce sacrifice, symbole de Jésus-Christ, en fait, qui allait venir. Et nous savons que Ésaïe est un livre prophétique et messianique. Beaucoup de prophéties qui parlent de Jésus. Et là, il vient vers Ésaïe. Et il prend cette pierre ardente et lui touche les lèvres. Et si on y était, on aurait entendu sa lèvre touchée, brûlée. Mais l'un des séraphins, verset 6, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il ne la tenait pas dans la main, il avait des pincettes pour montrer qu'elle brûlait. Et en touchant ma bouche, aïe, il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. Ouh ! Mes amis, voilà la bonne nouvelle. Tu es pécheur ? Oui. Tu te sens accablé par ton péché ? Oui, mais c'est normal. T'en as marre ton péché ? Oui. C'est comme si le séraphin venait aujourd'hui et te touchait la lèvre. Dieu dit, je te pardonne. J'ai donné mon sacrifice, mon fils pour toi. Dans Ésaïe 53, c'est le même prophète, même livre, 800 ans avant Jésus-Christ. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, 53:5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voyez-vous, il a pris notre péché sur lui. Et il nous a pardonné le nôtre. Il nous a donné sa justice et il a pris sur lui notre iniquité. C'est ça la bonne nouvelle, mes amis. Voilà ce que Dieu veut de nous. Qu'on ait une haute vision de Dieu, qu'on ait une basse vision, une réelle vision de l'homme, et qu'on ait une éblouissante vision du Rédempteur. Ça, c'est le message. C'est le message qui est à proclamer. Et si vous êtes ici ce matin, c'est probablement parce que vous avez été touché par la pierre ardente du Rédempteur. Peut-être ce n'est pas le cas. Aujourd'hui est le jour. Ne quittez pas ce lieu sans avoir demandé à Dieu et à son Fils Jésus-Christ de faire comme pour Ésaïe, de vous pardonner votre iniquité. Il le fera comme ça, en un instant. Et ceci mène au dernier point. Une urgente vision du monde. Regardez, c'est génial. Ça, c'est l'application. Si vous me suivez, suivez vraiment ce dernier point. Une urgente vision du monde. Il vient d'être pardonné au verset 7. Il touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je ? C'est Dieu qui parle maintenant. Dieu, regarde le peuple, Judas, Jérusalem, écarté de lui, des gens qui sont rebelles à lui. Mais il les aime. Il a un message de pardon. Il plaide avec eux, venez, venez. Mais le Seigneur veut utiliser des hommes pour annoncer cette bonne nouvelle, et c'est ce qu'il dit ici. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Qui est prêt à y aller ? Qui est prêt à être envoyé par moi ? Qui est prêt à marcher pour moi ? Dieu attend et il veut déployer des gens. Qui va y aller ? Et Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Ça, c'est la conclusion. Moi, je crois que nous devons chacun et chacune, surtout en ce début d'année, nous poser cette question. Est-ce que je suis prêt à répondre de la même manière ? Alors, peut-être vous n'êtes pas prophète, hein, on comprend. On n'est pas tous prophètes. Peut-être vous n'avez pas des dons d'orateur. Mais vous avez des dons. Vous avez des dons spirituels, ça c'est sûr. Dieu vous en a donné. Si vous êtes racheté en Jésus-Christ, il a un plan pour vous. Il va vous utiliser. Comment ? Peut-être vous dites, mais je ne sais pas. Vous savez où ça commence ? Ça commence ici. Ça commence en disant, Seigneur, ok, j'ai une haute vision de toi, j'ai une basse vision de moi, j'ai une éblouissante vision de mon Rédempteur et j'ai une urgente vision du monde. Il y a un monde qui est en train de se casser la figure gentiment là. Et moi, je me rends disponible à toi, Seigneur. Je ne sais pas comment, mais ça commence avec une disponibilité. Cette année, je veux que tu m'utilises. Seigneur, je me donne à toi. Ça, c'est l'attitude qu'il faut. Vous savez, je suis en train de prendre aussi un temps de réflexion pour voir comment moi je vais faire ça cette année. Vous dites, ouais, mais attends, t'étais pasteur professionnel. Ouais, mais je suis comme vous. Moi, je peux très facilement faire l'émotion, vous savez, faire les gestes professionnels. Je ne suis pas intéressé par ça. Moi, je veux être comme Ésaïe. Moi, je veux que je sois disponible, que Dieu m'utilise comme il veut m'utiliser. Moi, je dois faire ce même geste toutes les années, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi cette année ? Utilise-moi. Je ne veux rien retenir. Moi, je veux que je sois 100% à toi. » On est tous dans le même bateau ici. Et moi, je prie que le Seigneur, il utilise nos désirs de le servir ainsi, et que ce soit vraiment une révolution, quoi, dans notre Église, dans nos vies, au-delà, que les gens viennent à Christ, que les gens viennent à l'Église, je sais pas, que le Seigneur, il nous utilise avec un élan, un désir de le servir comme il veut, sans compter le prix. Ah, ça serait beau, là, non ? Ça serait top, ça. Voilà. Il y a un chant prévu, là. Ben, on va en prévoir. Ce serait super. On peut refaire Grâce infinie. Je vais demander à Flavius, il va commencer à jouer. Moi, j'aimerais qu'on prenne 2 minutes de réflexion, d'accord ? De prière, vous réfléchissez pendant qu'il joue. Je vais demander au groupe de louanges de venir et on va faire Grâce infinie. Pourquoi Grâce infinie ? Parce que celui qui a composé Grâce infinie, c'était un homme qui avait été esclavagiste. Je ne sais pas si vous savez. John Newton. Il avait été esclavagiste, et il allait en Afrique, il amenait les esclaves, et un jour, Dieu lui a montré l'erreur de sa voie. Et là, il s'est converti un jour, lorsqu'il était sur la mer en train d'amener ses esclaves, je ne sais pas où ils amenaient. Et là, il a réalisé qu'il était dans l'erreur, et qu'il devait maintenant dédier sa vie à Jésus-Christ. Et le Seigneur l'a complètement transformé, et c'est lui qui a écrit ce chant. Et ce chant parle de son pardon, le pardon qu'il a reçu en Jésus-Christ. Et Dieu a vraiment utilisé cet homme. Donc moi, je propose qu'on prenne 1 minute de silence, et ensuite on va chanter ce chant, et ensuite on ira continuer la journée. Inclinons-nous.